Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel.
Il est 20h30 et ce soir sur Fréquence Paris Pluriel, on se fait plaisir. Selon une étude du Figaro publiée en 2008, réalisée auprès de plus de 6000 personnes, 41% des femmes interrogées estiment que le chocolat leur procure davantage de plaisir que le sexe. Bref, on voulait faire une bonne émission sur le Kama Sutra durable et responsable, mais au vu des résultats de ce sondage et à quelques jours de Pâques, on a choisi de vous parler du plus naturel des aphrodisiaques, le chocolat. Et comme on est très gourmand et qu'on est entre nous, on va vous parler du meilleur des chocolats et de ses petits secrets. Le chocolat artisanal, juste fait de beurre de cacao, de fèves de cacao et de sucre, avec beaucoup de passion et du savoir-faire. Donc nous recevons aujourd'hui Guillaume Hermite, qui est en train de s'asseoir, donc il vient de s'asseoir en face de moi, bonjour.
Bonsoir.
Qui est fondateur de Puerto Cacao, deux boutiques dédiées au chocolat et à un commerce équitable, avec une structure que vous avez appelée Choc Éthique. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Ensuite, nous élargirons un peu le débat avec Sébastien Ravu, bonjour.
Bonsoir.
Qui est fondateur du site et de l'entreprise qui porte le même nom, qui s'appelle lemarchécitoyen.net, ça c'est l'adresse du site. Voilà, et entre les deux, toujours pour notre plus grand plaisir, nous écouterons Cyril Mokayesh, qui nous interprétera en live un titre de son album qui sort dans quelques jours, dans 4 jours exactement. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Donc merci à tous nos invités. Aujourd'hui c'est Cyril à la technique, merci Cyril. C'est Sophie qui présente l'émission avec moi. Zoom écologie, c'est parti, le jingle. Cyril, t'es prêt? C'est parti.
Zoom écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Alors bonjour, bonjour à tous, vous allez bien?
Sophie,
ça va?
Très bien,
merci.
Bon, donc on attaque. Alors donc on a décidé de vous parler de chocolat. Guillaume, on va commencer avec vous. Donc Guillaume Hermite, vous avez fondé deux boutiques à Paris qui s'appellent Puerto Cacao et une structure qui s'appelle Choc Éthique. Donc dans ces boutiques, on peut goûter, bruncher, organiser l'anniversaire de ses enfants, acheter toutes sortes de produits de chocolat, de tablettes, etc. Chocolat artisanal. Et cette structure Choc Éthique, si j'ai bien compris, la mission de cette structure, c'est de développer le marché du chocolat équitable en augmentant le niveau de vie des petits producteurs. Ça, c'est le principe même du marché équitable, en créant de l'emploi en France, en essayant de satisfaire le client avec un produit de la meilleure qualité possible et en sensibilisant le consommateur au commerce équitable. Donc j'ai envie de vous poser une première question, c'est quoi un bon chocolat aujourd'hui en France?
Un bon chocolat, c'est avant tout un chocolat qui a du goût et, pour ceux qui sont sensibles, qui a du sens. Mais effectivement, Sophie est venue me trouver, a voulu se faire plaisir, est venue me trouver dans un de mes bars à chocolat, à Puerto Cacao, dans le 12e. Et un bon chocolat, on essaie, nous, en général, de faire en sorte qu'il soit vraiment long en bouche, qu'il soit vraiment appréciable et qu'il soit le plus cohérent possible avec la manière la plus artisanale possible aussi de le fabriquer.
D'accord. Donc vous fabriquez votre propre chocolat?
Alors, on fabrique notre propre chocolat, on travaille en collaboration étroite en fait avec une entreprise d'insertion qui s'appelle La Table de Cana à Gennevilliers, avec laquelle on s'est associé pour monter en place un labo et justement co-investir dans du matériel, des tempéreuses, des enrobeuses, un certain nombre de machines, de moules qui font qu'on peut faire en ce moment des œufs de Pâques, des poules, des poissons, des lapins, puisque Pâques est dans 4 jours. Mais vraiment, oui, on est artisan chocolatier, on contrôle notre mode de fabrication, on contrôle même pour certaines filières, la filière depuis la fève de cacao et le producteur.
D'accord.
Donc on tient vraiment à avoir cet engagement de traçabilité, de maîtrise de notre savoir-faire pour justement assurer qu'on fait du bon chocolat.
Mais alors, quelle est la différence entre le chocolat classique des 4 grands? Je crois qu'il y en a 4. Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous apportez en plus? J'ai un peu du mal à me repérer
là-dedans. Tu dis les 4 grands industriels, en fait, quoi, c'est ça ton idée?
Entre les Nestlé, et je ne dis pas tout à fait de bêtises, Guillaume.
Non, il y a en fait le chocolat est multiple. Comme le vin peut être multiple, le chocolat est vraiment multiple. Et on peut distinguer les industriels, évidemment, les Nestlé, les Kraft, les Ferrero, tout ça, qui nous font les barres chocolatées, les Kinder et autres. Et autres gourmandises sucrées qui portent le nom de chocolat, depuis notamment que en 2003, une norme européenne a permis d'appeler chocolat un certain nombre de produits qui contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, qui sont souvent très riches en sucre, qui ont un peu de cacao et qu'on appelle chocolat parce que ça vend plus. Mais bref, enfin, ce chocolat industriel, d'autres bons industriels aussi, hein, qu'on peut trouver dans des grandes surfaces, les Lindt par exemple, ou les Suchard peuvent faire des bons chocolats, et le chocolat artisanal. Si on remonte un peu à l'origine, tout ça vient aussi notamment d'une différence de type de fèves de cacao. Comme il existe des cépages dans le vin, il existe des variétés botaniques de fèves de cacao. On utilisera plutôt des cacaos bas de gamme et standards qui viennent en général de pays d'Afrique continentale pour faire des chocolats industriels. On va chercher des variétés botaniques un peu plus rares et un peu plus aromatiques pour faire du chocolat artisanal. La première différence, elle vient du voyage gustatif que vous allez faire si vous voulez vraiment apprécier votre chocolat en le goûtant. Ensuite, nous, comment on se distingue des grands et des autres, et des moins grands et des artisans, c'est notamment vraiment qu'on essaie de mettre l'accent sur ce côté d'intégration d'une filière dans l'ensemble, en partenariat avec d'autres structures. On ne fait pas tout nous-mêmes parce qu'on n'en a pas les moyens, mais vraiment avec une relation de transparence avec ce labo, avec quelqu'un qu'on appelle un couverturier, qui est une chocolaterie au PEC, à côté dans les Yvelines, et à qui on vend de la pâte de cacao transformée par nos producteurs, qui transforme ça en grosses plaques de couverture de chocolat. D'accord. Avec des recettes propres qu'on travaille avec lui et qu'on lui réachète à la sortie pour faire des tablettes, des mendiantes, des orangettes, des œufs de Pâques.
Et ça, c'est dans l'atelier de fabrication.
Et ça, c'est dans l'atelier de fabrication qui se situe à Gennevilliers, ouais.
Alors justement, on va faire une transition, puisque j'ai eu la chance la semaine dernière d'aller visiter une chocolaterie en Isère. Je ne sais pas si vous connaissez la chocolaterie Bona.
Un petit peu,
qui est apparemment, dans ce qu'ils en disent, une des 5 chocolateries françaises à faire eux-mêmes leur chocolat, puisqu'ils torréfient leur fèves. Ouais. Donc j'ai fait une petite interview qui est très rapide de Madame Bona, qui donne un peu une ambiance un peu de cet aspect assez artisanal de cette chocolaterie, et très sympathique. Et je vous ai ramené des chocolats, sans que nos auditeurs ne pourront pas en profiter, mais je vous invite à en profiter. Donc si tu peux, Cyril, et je te garde un chocolat, c'est promis, nous lancer l'interview, ce sera super. Voilà. Donc Madame Bona, dans l'Isère, à Voiron.
C'est quoi comme amande et noisette.
C'est un praliné.
C'est un praliné à la française, amande et noisette. Le rêve, c'est un praliné tout noisette. El Melado, c'est un praliné toujours praliné à la française.
C'est ça vos produits phares, et puis des tablettes aussi de toutes tout cru.
Et surtout les tablettes grand cru de cacao.
Les tablettes grand cru de cacao.
Alors on a donc les grand cru historiques.
D'accord.
Historiques. On a les crus d'exception, qui sont d'autres comme. Comme il y a des choses d'exception dans les liqueurs, oui, c'est dans des crus d'exception.
Oui, parce que vous m'expliquez en visitant que le chocolat, c'est un peu comme le vin. Il y a des années, il y a des fèves différentes en fonction de
d'une année sur l'autre, il y a des légères différences. Donc, à la base, déjà, le chocolat Bona est fabriqué à base de fèves de cacao, de sucre et de beurre.
Voilà.
C'est tout, il n'y a aucun additif.
Trois ingrédients.
Trois ingrédients pour du chocolat noir.
D'accord.
Tout simplement. Avec des grands crus, comme l'a dit Madame Bona, des très grands crus d'exception qui sont choisis et sélectionnés sur place.
D'accord.
Et d'ailleurs, on peut parler de la partie vraiment bio de votre fabrication, parce que vous dites, vous m'avez raconté que ça prend quand même une part un peu plus importante chaque année, parce que la demande augmente en fait.
Oui, la demande augmente.
Donc aujourd'hui, c'est 15% de votre production à peu
près. Voilà, à peu près, oui.
Et on les fait depuis. Au moins 15 ans. Hein.
Ouais. On bio, était tout premier à faire du fèves, bio. En fait, c'est les fèves qui
tous
sont
les produits
de l'agriculture biologique.
Fèves,
sucre et beurre de cacao.
Fèves, sucre
tout est bio.
Ils sont tous, voilà.
D'accord.
On le fait certifiés dans les règles de l'art.
Et qui viennent d'où? Est-ce que du coup, il y a des provenances particulières?
Madagascar, il y en a qui viennent.
Du Madagascar, voilà, République dominicaine. Le sucre vient du Brésil.
Et vous me disiez, la production totale, c'est
150 tonnes par an.
150 tonnes par an de chocolat.
Ouais.
Donc 20 tonnes de bio.
Dont 20 tonnes de bio, tout à fait.
Et c'est quoi les pays qui achètent le plus?
Japon.
Japon.
Allemagne.
États-Unis.
Bon,
après, il y a l'Autriche.
Oui. Autriche, l'Italie, l'Italie,
on a l'Angleterre, il y a la Norvège, la Suède,
les Nordiques.
D'accord.
Pour terminer, on peut dire à nos auditeurs où on peut trouver du chocolat Bonnat à Paris, parce qu'il y a énormément de boutiques qui vous distribuent.
Oui, hein, tout à fait.
Nicole nous disait qu'il y a 300 boutiques qui vous distribuent en France.
Oui.
Donc les deux grandes, les plus connues, c'est Lafayette Gourmet et vous avez dit la grande épicerie du Bon Marché.
Voilà, tout à fait.
Mais je lis aussi Alco, rue de Rennes, Ardélis, rue de Manin, Roi d'Agobert, rue d'Amsterdam. Voilà, bon, dans tous les quartiers, on peut trouver du chocolat Bonnat. Voilà, alors Guillaume, on va revenir avec vous. Comment, d'où vous êtes venu ? Vous êtes un jeune entrepreneur, puisque vous êtes sorti d'une école de commerce il n'y a pas si longtemps que ça. D'où vous est venue l'idée de vous lancer dans le chocolat ?
En fait, l'idée m'est venue pendant que je faisais un stage au Mexique, un jour en visitant une chocolaterie au Mexique, dans une ville qui s'appelle Oaxaca, où il y a eu une espèce de coup de foudre ou de coup de charme qui m'a pris, où en fait je suis rentré dans un magasin dans lequel on avait vraiment tout type de matières premières stockées à l'état assez brut dans le magasin, avec une odeur aussi très forte de cacao, et on pouvait se faire fabriquer sous ses yeux à partir de telle ou telle fève de cacao, de telle quantité, telle proportion de sucre, un peu d'amande, un peu de cannelle, sa propre pâte de chocolat, où on passait ses matières premières dans des vieux moulins, dans des vieux broyeurs qui ressemblaient à des moulins à farine du début du siècle, et ils sortaient une pâte de chocolat hyper bonne, chaude, mais hyper riche. Et mes parents étaient venus me rendre visite, et on est restés tous les trois assez scotchés par ça. Et au début, j'ai voulu essayer d'adapter cette idée-là à la France. Et je suis rentré, finir ma scolarité sur les bancs de l'école, prendre des cours de création d'entreprise.
Adapter cette idée-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire refaire son vrai...
Ça veut dire refaire quelque chose qui ressemble à ça, une chocolaterie dans laquelle on ait cette dimension de matière première stockée à l'état brut, dans laquelle on pouvait refaire son chocolat sur mesure dans le magasin. Il se trouve que la réalité, après, en France, est économique, est sanitaire, et même auditive, en fait, hein, parce qu'on ne se rend pas compte qu'au Mexique, on vit dans le bruit tout le temps, et faire ça génère beaucoup de bruit, et en France, c'est pas tout à fait possible de pouvoir broyer sous les yeux des clients et d'être dans le bruit toute la journée un chocolat, d'accord, même si ça a d'autres avantages. Donc, j'ai ouvert ma première chocolaterie en 2006 en proposant ce service-là qui, au final, est assez rapidement devenu anecdotique parce que pas facile à gérer, parce que peu rémunérateur aussi et qu'on ne serait pas arrivé à tenir le bout si on se tenait qu'à ça. Mais il y a eu cette espèce de coup de foudre en 2005 au Mexique qui m'a fait me lancer dans le bain. J'étais pas chocolatier, mais je me suis dit que j'étais pas plus bête qu'un autre et que j'apprendrais le métier.
Il y a un truc super sympa, ce que je voyais dans l'étymologie un peu du chocolat, je crois que chez les Aztèques justement, et là on y est, c'est la nourriture des dieux, non, c'est ça ? Est-ce que ça avait pas quelque chose de séduisant aussi ?
Ah, mais il y a un univers, une fois qu'on y rentre, moi j'ai toujours aimé le chocolat, peut-être moins que vous, non, je sais pas, comme vous en tout cas, en tant qu'amateur, mais je m'y suis plongé petit à petit en tant que fabricant et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup côtoyé quelques chocolatiers qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont permis d'apprendre à comment on fabrique le chocolat. Et c'est un univers hyper, hyper riche, à la fois très sensuel, effectivement, avec son côté aphrodisiaque, très féminin. En tout cas, on peut l'attester dans nos boutiques Puerto Cacao. Plus de 80% de notre clientèle sont des femmes. Hein, ouais. C'est assez agréable comme univers de travail. Mais c'est un univers aussi très riche d'un point de vue gustatif, d'un point de vue diététique. C'est très bon pour le corps, le cacao. Enfin, il y a vraiment plein de facettes au chocolat.
C'est un anxiolytique, le cacao ?
C'est un anxiolytique. On dit que c'est un antistress, antidépresseur. Ouais, et que c'est aussi très bon pour la mémoire et pour la circulation entre les neurones, la circulation de l'information. Et c'est très recommandé, comme certaines homéopathies, en période de révision.
Alors c'est vrai que dans mon introduction, je présentais le chocolat comme étant un aphrodisiaque. Il y a une controverse là-dessus, parce que c'est vrai que dans le chocolat, il y a beaucoup de substances. Donc dans ces substances, forcément, il y a des substances stimulantes, il y a des substances qui égayent un peu, etc. Mais elles sont quand même dans des faibles doses. Donc de là dire que le chocolat est aphrodisiaque, c'est...
Ouais, la réalité même veut que le chocolat ne soit pas vraiment aphrodisiaque. C'était plus un mythe qui vient du fait que... Apparemment, lorsque c'est arrivé en France et lorsque les cours de France et d'Espagne ont découvert ça, ça correspondait aussi à une époque un peu plus très, très ouverte, très libertine, et on utilisait le chocolat chaud comme, comme une des boissons à l'apéro, entre guillemets, avant de faire d'autres choses dans les soirées.
Il y avait un certain snobisme.
Voilà, il y avait un snobisme dans tout ça. En réalité, alors... Si on veut rentrer dans les détails sans vouloir vous ennuyer, il existe une molécule qui s'appelle la phényléthylamine, qui est la molécule des amoureux que le cerveau sécrète lorsqu'on tombe amoureux et qui nous rend assez jovial, assez, assez heureux, et en même temps qui supprime tout esprit critique au cerveau, il faut le souligner. Le chocolat possède de cette molécule.
D'accord.
Mais il y a plein d'autres facteurs qui sont plus liés à l'univers de, et aussi ce qu'en ont fait les chocolatiers, des sculptures, des robes, toute la mode du salon du chocolat contribue aussi un petit peu à tout ça, en tout cas qui nous laisse à penser que c'est aphrodisiaque. C'est en tout cas très apaisant.
D'accord. Dans l'interview que j'ai fait de Madame Bonnat, là, à la chocolaterie à Voiron en Isère, elle parle du développement du chocolat biologique, bio, qui représente 20% pour l'instant de sa production. Je me souviens plus des chiffres, mais c'est genre 20 tonnes sur 150 tonnes par an de chocolat. Vous avez du chocolat bio. Comment vous voyez l'évolution du chocolat et de la demande surtout?
Nous, en fait, le point de départ, surtout pour moi qui ne suis pas chocolatier, c'était d'utiliser quelque part le chocolat comme un outil, un produit de consommation, et monter une entreprise qui soit un outil économique au service d'un certain nombre de missions sociales, comme vous le disiez très bien au début, notamment l'application directe des principes du commerce équitable et le fait de vouloir générer par ce commerce qui est avant tout un échange de biens contre de la monnaie, mais qui est un échange qui doit permettre le développement notamment de populations qui ont de petits producteurs de cacao qui ont un accès difficile au marché. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir cette envie d'impact social. En l'occurrence, on travaille aussi sur des filières qui sont d'agriculture biologique. On a souvent des similitudes dans les méthodes de production entre les petits producteurs et des coopératives qui veulent être labellisées commerce équitable et qui veulent faire du bio. Mais notre impact à nous se veut vraiment avant tout sur le niveau de vie des producteurs.
D'accord.
Tant mieux si le chocolat est bio, c'est pas ce sur quoi on insiste le plus, et c'est effectivement quelque chose de très recherché par les consommateurs, sur lequel on se positionne à la fois par intérêt, à la fois par conviction. Mais je pense que le chocolat bio a de l'avenir, encore que c'est pas du tout, notamment chez les chocolatiers artisanaux, le facteur premier est très loin de là, d'achat du chocolat.
Et en l'occurrence, quand vous dites que les petits producteurs, vous leur assurez un accès au marché dans de bonnes conditions, quelles sont-elles? Parce que je crois que les chiffres donnent qu'il y a en gros 6 multinationales qui contrôlent 80% de la distribution du chocolat, ça fait erreur.
Et le cacao, oui.
Voilà, ouais. Et le planteur, en gros, le producteur, il empoche entre 4 et 6%
du prix de vente d'une tablette classique.
Voilà. Donc, comment vous vous positionnez? Vous êtes au-dessus des 4 à 6 ou je me fais un peu l'avocat mais...
Alors, c'est complexe. Et si vous voulez qu'on rentre un peu dans les détails, en fait, le chocolat, enfin, le cacao est un produit qui doit subir plusieurs transformations avant de devenir du chocolat. Tout comme le raisin ne passe pas au vin tout de suite, il subit un certain nombre d'étapes. Et justement, là, contrairement au vin, il y a plusieurs interlocuteurs sur cette chaîne de transformation du cacao qui interviennent. Souvent, le producteur vend son produit de manière très brute et très peu transformée. Et une des raisons pour lesquelles il vit très mal, les producteurs, et notamment les petits producteurs de cacao, vivent très mal de leur agriculture, c'est un... Parce qu'ils sont souvent très peu... D'abord, le cacao se cultive que dans des pays en voie de développement. Et malheureusement, les agriculteurs ou micro-agriculteurs dans ces pays-là ne sont pas du tout représentés d'un point de vue collectif, que ce soit au niveau de leurs instances nationales ou internationales, puisque c'est au niveau international que s'échange le cacao. Et donc, une des raisons pour lesquelles ils vivent mal sont, un, ils sont mal représentés, ils sont petits, séparés face à des acheteurs qui sont soit des traders, gros traders boursiers de matières premières, soit des gros industriels qui, eux, sont puissants et peuvent beaucoup plus orienter les prix du marché. Deux, ils n'ont pas du tout le contrôle, d'ailleurs, de ces prix du marché. C'est des mécanismes boursiers, c'est des mécanismes de fluctuation des prix complètement indépendants de ce qui se passe au niveau local, de la récolte, du type d'acteurs locaux qu'il peut y avoir qui fixent les prix. et en général ils subissent aussi, et trois, ils vendent un produit qu'ils ne transforment pas. Et donc effectivement, les différentes transformations qui s'opèrent en général dans les pays industrialisés font que ben, votre fève vendue au départ, mais qui a été transformée par trois ou quatre acteurs différents, ne représente à la fin, dans le prix de vente du produit, plus qu'une goutte d'eau, plus que... C'est ça, on dit 4 à 6% du prix de vente du produit. Donc, il y a plusieurs manières d'intervenir là-dessus. Le commerce équitable, notamment, vise à mieux rémunérer l'achat des matières premières, à acheter mieux les matières premières des producteurs et à mieux les payer.
Comment ?
Comment ? En instaurant notamment, nous, ce qu'on fait, et puis ce qui est fait aussi par le label Max Havelaar et les organisations qui sont en amont, notamment l'institution de Flo.
Parce que le gros label, c'est Max Havelaar.
Gros label de commerce équitable aujourd'hui, notamment en France, c'est Max Havelaar. Mmh. Mais a quelques grands principes, notamment la définition d'un prix minimum garanti, qui est un prix plancher en dessous duquel on ne va jamais, même si le cours du cacao s'effondre. Ouais. Un prix qui est censé permettre au producteur, quoi qu'il arrive, de dégager une marge et de gagner sa vie sur la vente de son cacao. Ça, c'est le premier point et certainement le plus important. Deuxième point, c'est souvent de préfinancer des commandes. On parle d'entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, c'est encore plus accentué chez des producteurs qui sont carrément à des problématiques de survie. Mais c'est vrai que exporter, ça a d'abord un coût avant que ce soit un bénéfice. Et donc, préfinancer ces commandes les aide à exporter et donc avoir accès à des marchés plus directement que ceux qu'ils n'avaient au départ, quand ils étaient obligés de revendre à des intermédiaires locaux qui, en fait, eux, sont ceux qui touchent le prix. Quand on vous parle que le cacao est à 2 000 $ la tonne, c'est à l'export, au port du pays d'origine. Le producteur, en général, s'il passe par des intermédiaires locaux, et Dieu sait qu'il y en a dans des pays, notamment de tradition en Afrique ou dans les pays latino-américains, ne touche que la moitié de ce prix-là. Donc, l'aider à exporter en l'appuyant, en créant, en obtenant des licences d'exportation, en préfinançant les commandes, ça contribue à ça. Trois, sans trop rentrer dans les détails, parce que si je suis trop long, vous me le dites, mais on est souvent dans des pays dans lesquels l'histoire, les dévaluations monétaires, les différentes dictatures, etc., font que la monnaie est très fluctuante. Et en fait, culturellement, ça a amené des gens à ne plus trop se projeter sur l'avenir. Souvent, quand on a trois économies de côté, l'histoire nous a montré qu'elle pouvait être prise par quelqu'un où la monnaie ne valait plus rien. Donc, dès qu'il y a de l'argent, on le dépense. Ça, je simplifie, mais l'idée est là. Or, dépenser tout de suite les économies qu'on a empêche d'investir, de renouveler son équipement, d'améliorer son appareil de production, etc. Et un des enjeux du commerce équitable, c'est via ce qu'on appelle des primes de développement, d'appuyer, de permettre à ces producteurs d'investir, puisque ces primes de développement, nous, on reverse 200 euros pour chaque tonne de cacao achetée, qui doivent absolument, qu'on impose qu'elles soient investies dans du matériel.
Ça, c'est annualisé, par contre.
Ça, c'est annualisé, ouais. Mmh. C'est pas lié à l'achat, c'est annualisé, voire biannualisé, puisque moi, dans mon cas, j'ai démarré avec des petits volumes, et on a beau mettre en place les meilleures pratiques du monde, si on fait pas de volume, on génère pas d'impact. C'est d'ailleurs une des positions de Max Havelaar qui, pour cette raison, est allé vers la grande distribution, ce qui a d'autres choix pervers, je l'admets, mais là où ils ont raison, c'est que si on ne fait pas de volume, on ne génère pas d'impact. Et voilà, le commerce équitable, c'est notamment ces trois grands axes-là, c'est travailler avec effectivement que des petits producteurs défavorisés, c'est travailler sur le long terme. Et après, il y a un autre penchant sur lequel nous, on essaie de s'appuyer, de s'engager, notamment au Venezuela, là où on travaille en direct avec les producteurs. C'est le fait
il y a une ONG, non ? Via une ONG locale.
Sur place, ouais. Exactement. Mais c'est le fait que la valeur ajoutée soit créée sur place. Et nous, on n'achète pas de la fève, mais de la pâte, du beurre ou de la poudre de cacao qui a été torréfiée, concassée, broyée sur place. Le beurre et la poudre ont été extraits. Ouais. Et nous, on part de ça. Et donc, forcément, même si notre prix minimum garanti plus les étapes de transformation sur place font qu'on achète un produit qui est plus de l'ordre de 5, 6, 7 euros le kilo, ça dépend du type de produit, beurre ou poudre, et qui, dans certains produits qu'on vend dans le magasin, notamment les poudres de cacao que vous achetez dans le magasin, font producteur Puerto Cacao, et représentent souvent plus de 35% du coût, ce que vous payez, plus de 35% va chez le producteur. Sur des produits qui, comme des tablettes de chocolat, nécessitent un peu plus de transformation, on est quand même à du 12 ou 13% du prix de vente qui revient chez le producteur. Donc c'est par ces mécanismes-là, mieux payer, aider à mieux produire, à financer, et surtout faire en sorte que la valeur ajoutée reste un peu sur place, ce qui sous le discours certainement vrai des grands artisans chocolatiers qui veulent maintenir la torréfaction chez eux, tout un certain nombre de transformations chez eux, parce que c'est des savoir-faire bien précis qui donnent un très bon goût à ce chocolat qu'on vient de goûter, qui est très bon, mais qui d'un autre côté maintiennent une cape un peu colonialiste, si je vais un peu loin, sur ce, sur ce marché-là. Voilà.
Et aujourd'hui, donc ça fait 5 ans que vous avez lancé vos activités, vous avez deux boutiques à Paris. C'est, vous faites quoi comme bilan de votre activité au bout de 5 ans? Vous allez vous développer? Ça marche?
Quel bilan on fait? Il paraît que certaines périodes étaient beaucoup plus propices au développement de la petite entreprise que ce que ça ne l'est aujourd'hui. C'est pas évident, il faut se battre et c'est un grand nombre d'horaires. Je pense que Sébastien pourra en attester aussi. Mais malgré tout, moi je suis épanoui dans ce que je fais. Effectivement, ça se développe. On est passé de 0 à 650 000 euros de chiffre d'affaires en 5 ans. On est 9 salariés maintenant. On a un impact et auprès de ces producteurs, on fait 15 tonnes de cacao par an, d'import de cacao par an sur la filière du Venezuela. On utilise d'autres filières aussi, notamment depuis quelques temps en partenariat avec une autre marque de commerce équitable qui s'appelle Ethicable. On travaille avec Haïti. Je gagne pas des 100 et des 1000, mais je m'épanouis dans ce que je fais et a priori il y a de l'avenir, donc j'en suis assez heureux.
Parce que c'est un vrai choix quand on sort d'une école de commerce ou.
C'est un
réputé en plus.
Réputé, attention. Non, c'est un vrai choix. Mais enfin, c'est un choix fait un peu plus tôt que la plupart des autres qui veulent créer leur entreprise plus tard. Après, il y avait une dimension sociale et solidaire qui vient chez moi d'une éducation, d'un certain nombre de réflexions que m'ont apporté aussi mes parents et qui me sont chères.
Les valeurs.
Voilà, les valeurs. C'est un choix qui est pas si risqué que ça au final. Mais ça, c'est encore une autre histoire.
En tout cas, à la sortie du marché d'Aligre, c'est plutôt agréable d'aller faire un tour à Puerto.
Oui, mais d'ailleurs, attendez, Pâques, c'est dans 3 jours, Puerto Cacao, marché d'Aligre, dans le 12e arrondissement, et rue de Tocqueville, 53 rue de Tocqueville, dans le 17e arrondissement à Paris. Il ne nous reste plus beaucoup d'œufs et de cocottes, alors dépêchez-vous.
C'est sur le marché d'Aligre, c'est quoi l'adresse exactement?
C'est 2 rue Théophile Roussel, pour ceux qui connaissent un peu le quartier, vraiment en face du marché couvert, en face du Baron Rouge. C'est quoi là?
Ah oui, d'accord, ok, je connais. Écoutez, merci. On remettra les adresses sur le site, on va revenir avec vous. On va faire ce qu'on appelle la pause musicale, mais qui est toujours un moment très agréable, avec Cyril Mokayesh. Bonjour Cyril. Cyril, vous mangez du chocolat, Cyril, ou pas?
Oui, j'arrête pas d'en manger depuis tout à l'heure.
D'accord. Bon Cyril, je suis très content de vous recevoir, pour plein de raisons.
Merci.
Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, déjà parce que j'ai écouté en boucle votre titre communiste que vous allez nous interpréter en acoustique la semaine dernière dans la voiture avec mes enfants. On était 3 à chanter dans ma voiture rouge, je suis communiste. Par contre, après, j'ai dû expliquer la notion de communiste à mes deux fils qui ont 5 et 7 ans. C'est pas évident, mais c'est un bon exercice. Pardon ? Allez, j'ai mis ma chemise rouge aujourd'hui.
Je n'osais pas le dire trop tôt.
Pour honorer votre présence. Et puis, une raison un peu plus conjoncturelle qui est que vous sortez votre album dans 4 jours. Donc le 25 mai il sort en digital donc sur les iTunes et compagnie si j'ai bien compris, et le 26 mai dans les bacs, donc c'est un album qui s'appelle
Avril.
J'ai dit quoi?
Mai.
Ah oui, mais t'en passes tellement vite. Donc c'est le 25 jours. Avril, d'accord, okay. Un album qui s'appelle Du Rouge et des Passions. Nos auditeurs les plus mélomanes ont peut-être connu déjà le groupe qui portait déjà votre nom, le Mokayesh, donc qui existait entre 2005 et 2008, où on retrouvait quand même déjà des textes assez finement écrits, assez engagés, un peu écorchés quand même, un peu aussi. Mais peut-être dans un traitement un peu plus rock, Mokayesh, là vous êtes dans un univers un peu plus pop, on va dire.
Pop, chanson, variété.
Voilà, et on lit dans le dossier de presse que vous avez osé détruire les murs de guitare qui vous encombraient la vue.
C'est pas moi qui ai dit ça.
D'accord. Mais vous vous sentiez un peu enfermé dans le rock ou
Je me sentais pas enfermé jusqu'à ce que je me sente enfermé, en fait.
D'accord.
Mais toute la première période, enfin ma période avec mon groupe, j'en garde vraiment, vraiment une super expérience. Et une si bonne expérience qu'à la fin, on avait abouti dans nos têtes à quelque chose de concret et on se posait vraiment des questions de savoir comment on allait évoluer. Et c'est à partir de là que c'est vrai que les choses se sont un peu compliquées.
C'est dans la projection, dans l'avenir, en fait, souvent que la vie d'un groupe se complique.
C'est pas vraiment en se disant, c'est sûr que le fait qu'on n'ait pas eu un succès monumental, loin de là, sans doute mis un peu des doutes quelque part. Mais je pense que la raison principale, c'était de se dire, on a fait ça et on a pas à en rougir. Au contraire, on a plutôt défendu ce qu'on voulait faire. Maintenant, comment faire pour défendre la suite, oui. Aussi sincèrement, aussi spontanément.
Oui, et parce que quand un groupe se crée, on ne parle pas tout de suite de ce qui va se passer dans l'avenir, si ouais. ça marche, etc.
Oui, on se rejoint sur des idées, et puis sur, surtout sur la musique, sur un projet qu'on a envie de défendre en commun. Et puis c'est vrai que ça ne se joue à pas grand-chose, finalement. Les influences des uns, les influences des autres, le mélange, ce qu'on est prêt à donner, à lâcher, à recevoir. C'est un peu... C'est une alchimie pas simple à long terme, c'est sûr.
Ouais, ouais. Donc là, c'est une aventure solo, mais qui est quand même orchestrée, hein, je veux dire, sur l'album. Ah, vous êtes entouré de musiciens. Du coup, c'est des rencontres ou c'est...
Ouais, c'est des rencontres. Il y a eu une première phase où j'étais vraiment tout seul, un peu dans le... J'avais besoin de me reconstruire un répertoire. Donc je me suis retrouvé avec ma guitare à composer des chansons, à les maqueter guitare-voix.
Ouais.
Et puis parce que mon directeur artistique quand même suivait de près ce que je faisais et on se demandait ce qu'on allait faire de ces chansons. Et puis l'idée c'était de les arranger, de faire confiance à quelqu'un qui allait apporter sa patte justement. Moi j'ai toujours voulu partager la musique, j'ai pas du tout la casquette de réalisateur. Donc je comptais sur quelqu'un pour que justement il m'amène toutes ces impressions que j'ai en tête, mais que je ne peux pas mettre en forme musicale. Et la rencontre s'est faite avec Philippe Huminski,
oui, d'accord.
qui a réalisé ce disque et qui a, on a eu de la chance, surtout moi peut-être, de trouver quelqu'un de complémentaire, et puis avec les mêmes influences, mais je parle de la chanson française, des grands auteurs, vrai qu'on se retrouvait là-dessus, ce qui est rare quand même aujourd'hui. Quand même, y a peu de gens qui ont vraiment les intégrales pour de vrai, de Vogue, de Ferré, de Brel, et qui les écoutent et qui les connaissent. Quoi.
Non, mais par contre, on a tous le poster chez nous avec Brel, Ferré, ça, on l'a tous chez nous. Hein, mais c'est vrai que l'intégrale, on l'a pas.
On s'est retrouvé là-dessus, et puis il m'a apporté aussi son côté pop, qui lui, c'est un grand, grand dingue des Beatles.
D'accord.
Et je pense qu'il a trouvé aussi une forme pour mettre. Pour mettre des sentiments que je doutais, j'avais peur un peu de montrer chez moi.
D'accord. Parce que c'était pas une quand on lit un peu le dossier de presse, on a l'impression que c'était pas une évidence tout de suite ce qu'il avait à vous proposer, que ça germe un peu dans votre tête quoi quand même.
Ouais. Mais je pense que ça aurait été avec lui ou n'importe qui d'autre. Je pense que c'était surtout moi qui avais du mal à lâcher prise. Je sortais de 2 ans d'écriture où mes repères étaient avec le groupe.
Ouais, c'est ça.
Et là d'un coup il fallait je disais laisser place à d'autres émotions qui étaient dans mes chansons mais que j'osais pas vraiment encore donner, un peu de douceur, un peu de légèreté parfois, quelque chose d'un peu plus allant. Moi j'ai toujours conçu la musique de manière plutôt mélancolique et sauvage avec le groupe, et là c'est vrai que j'avais écrit les chansons pour faire autre chose et il fallait juste l'assumer maintenant.
Et donc vous avez signé chez une grosse maison de disques quand même, Universal chez AZ, ça se passe bien cette signature.
Ça se passe bien, elle s'est remise on va dire en cause entre les deux albums, parce que c'était déjà AZ qui produisait mon premier disque.
D'accord.
Donc il a fallu faire mes preuves aussi à nouveau et montrer que mes chansons les séduisaient toujours. Mais je dois dire que non, j'ai un espace de liberté qui est très large.
D'accord.
Et une équipe qui me soutient, donc jusque-là, j'ai pas à me plaindre. J'ai l'impression que je suis peut-être un rescapé du système des majors qui parfois ont du mal à réinvestir leur argent pour des projets qui leur tiennent à cœur, des petits artistes. Et moi, c'est vrai que je suis un peu le cas contraire. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup, ou sans doute que j'ai de la chance, mais j'ai l'impression qu'on pense à moi pour l'instant. Combien de temps, je sais pas, mais en tout cas, on pense à moi.
D'accord. Bon, on va écouter. Donc vous allez jouer Communiste en acoustique. Communisme.
Communiste.
On va placer les micros, on vous écoute et puis on reprend la parole juste après.
Vous chantez près du micro, non ?
Non, vous pouvez jouer les guitares.
Ça les perdra de mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra de coucouner le patronat. De boucliériser l'élite qui t'embauche pas mais qui profite de ces villas. La, 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 Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital. Oula.
crédit pour la survie. Mais nos portefeuilles, c'est pas l'Afrique qui les fabrique. Je suis communiste, à ce qu'il paraît. Rien de rendu.
Sur le CD la semaine dernière. On va juste dire que vous avez quand même un concert à Paris très prochainement, puisque c'est à la Maroquinerie.
Le 24 mai.
Le 24 mai, voilà. Et donc cet album qui sort dans 4 jours.
Exactement.
Dans tous les bacs et tout ça. Donc voilà, on invite nos auditeurs à l'acheter. On écoutera en fin d'émission un autre titre de vous issu de ce CD qui sera.
Des jours inouïs, c'est ça ?
Des jours inouïs, voilà. Et la cinquième chanson de l'album. Merci encore, Cyril. Sophie, tu voulais dire quelque chose ?
Non, je pense qu'on va pouvoir poursuivre. On avait Guillaume Hermite en première partie d'émission, qui est toujours là et qui peut intervenir s'il le souhaite. On a également avec nous Sébastien Ravu.
Bonsoir.
Alors, vous avez monté une plateforme qui s'appelle le Marché Citoyen. Qu'est-ce que c'est exactement ? En quoi ça consiste ? On parlait tout à l'heure de consommation, consommer un petit peu différemment. Je crois que vous êtes complètement dans cette problématique-là.
Bah, effectivement, l'idée du marché citoyen, c'est un site internet, hein, www.lemarchécitoyen.net. L'idée, c'est de permettre aux gens tout simplement de consommer autrement, à côté de chez eux. Donc, à la base, on a commencé un peu ensemble, au même moment avec Guillaume, en 2006. L'idée était de permettre aux gens de trouver facilement, près de chez eux, des commerçants ou des prestataires de services qui ont des engagements économiques, sociaux, environnementaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui proposent des produits et des services de qualité, mais qui ont décidé aussi de privilégier par exemple l'agriculture biologique, de privilégier le commerce équitable, de travailler avec des personnes qui sont en insertion, promouvoir ou de vendre un certain nombre de produits écologiques.
Guillaume parlait de sens tout à l'heure. C'est un peu la démarche du marché citoyen ?
Bah exactement, en fait. Moi, j'ai fait des études d'économie, j'ai étudié le marché, j'ai travaillé aussi dans le développement économique local. Et je me suis rapidement aperçu que tous les entrepreneurs n'étaient pas pareils. Ils n'avaient pas tous la même démarche. Ils cherchaient tous à avoir une activité qui fonctionne, mais pas tous de la même manière. Et c'est, encore une fois, je dirais que c'est des gens comme Guillaume, hein, les Puerto Cacao est référencé, les deux magasins sont référencés sur le marché citoyen.
Quel hasard.
Net, bien sûr. En gros, il y a des entreprises qui sont constituées en coopérative, par exemple, dont les salariés sont à la fois les actionnaires de la société. Quand vous choisissez une assurance, vous pouvez prendre une entreprise capitaliste ou une mutuelle qui est détenue par ses sociétaires, donc par ses clients. Quand vous achetez des vêtements, vous pouvez aller chez des marques que je ne citerai pas, qui ont des enseignes partout en France, ou vous pouvez aussi choisir la mode éthique. Il y a chaque année un événement, l'Ethical Fashion Show, qui référence tout ce qui se fait en matière de mode éthique. Quand vous avez besoin de vous déplacer, vous pouvez soit acheter une voiture, soit utiliser une société d'autopartage, et donc n'utiliser une voiture que quand vous en avez besoin.
L'énergie utilisée aussi.
Exactement, dans les services, il y a énormément de choses qui se développent. Des sociétés, je vais leur faire un peu de promotion parce que je les aime, et puis je pense que c'est un peu l'actualité. Hein, si votre, aujourd'hui votre électricité est nucléaire, bah, vous pouvez passer aux énergies renouvelables sans aucun souci avec des sociétés comme Enercop, qui donc toute l'électricité est fournie par des producteurs qui utilisent des énergies renouvelables. Donc voilà, l'idée, c'était de montrer... En fait, l'idée de départ, c'était aussi que un certain nombre de gens, d'amis, de personnes que je rencontrais me demandaient « Oui, effectivement, moi, ça m'intéresserait de consommer bio, de consommer équitable. Je sais que ma consommation a un impact, que la consommation, c'est du plaisir, mais qu'elle peut avoir aussi un impact relativement négatif sur les autres, sur la planète. » Et ces gens me disaient « Mais c'est pas facile de trouver l'info et de savoir où s'adresser. » Et le marché citoyen est né comme ça, en fait. Moi, comme je connaissais pas mal de choses, j'avais référencé plein de choses, bah, avec une équipe, on a décidé de monter ce site internet ensemble pour permettre aux gens, tout simplement, de trouver facilement les produits et services à côté de chez.
Alors, est-ce que ça n'a pas un côté bobo ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas accessible à une certaine tranche de population ? C'est la question que vous attendiez, j'imagine.
Ouais, bah ouais, c'est une question qui revient souvent. Alors moi, je vais faire une parenthèse juste sur ce terme de bobo, parce que ce qui est marrant, c'est que j'ai des amis agriculteurs dans les Cévennes, et des gens qui s'installent à côté et qui essayent de faire une petite exploitation agricole, ils les traitent de bobos. Le mec qui est à Paris et qui a effectivement des moyens et qui consomme des produits bio, par exemple, il se fait traiter de bobo. Et un peu n'importe qui aujourd'hui utilise ce terme. Et je trouve que c'est pas... moi, par exemple, je suis pas un bourgeois. Peut-être que je suis d'une certaine manière dans la bohème. Mais je trouve qu'il est utilisé un petit peu à tort et à travers. Mais après, pour répondre vraiment à la question, et ça, c'est ce qui est important, il faut effectivement, pour un certain nombre de produits, avoir les moyens. Mais c'est aussi des choix de consommation qu'on doit faire aujourd'hui. Moi, je travaille beaucoup avec le mouvement Colibri qui a été fondé par Pierre Rabhi. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins. Il faut aussi faire des choix. Il y a des choix simples à faire pour consommer, par exemple, de la viande qui est issue de l'agriculture biologique. C'est peut-être de consommer de la bonne viande 2-3 fois par semaine et pas manger à midi et le soir de la viande dégueulasse. Ça peut être aussi un moyen d'accéder à ce type de consommation. C'est aussi transformer sa consommation et manger aussi peut-être plus de légumes. Moi, je suis un carnivore, hein, j'aime bien la viande, mais simplement, j'essaie d'en manger un petit peu moins et de meilleure qualité. Et puis, je découvre aussi des recettes hyper simples à préparer qui sont faites avec des graines, qui sont faites avec des produits. Et puis après, il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est qu'on vient de subir une crise qui est assez violente et qui a été très violente pour tout un tas de nos concitoyens. Mais ces gens-là, ils n'ont pas attendu pour trouver des solutions pour consommer autrement. Et ils vont en direct chez les producteurs. Ils se groupent ensemble pour aller chez les producteurs. Certains montent des AMAP, par exemple, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il y a des sites internet qui permettent aujourd'hui de consommer, de s'échanger des produits très facilement. Et ça, c'est aussi du recyclage de produits. Et c'est aussi de l'écologie. C'est aussi des économies. Donc, en gros, c'est notre manière de concevoir la consommation. Alors, pour moi, qui doit rester dans le plaisir. Hein, l'idée, mm-hmm. c'est quand même d'être heureux. Hein, c'est un peu tout ce qu'on cherche. Mais en même temps, transformer en fonction de ses moyens sa consommation et puis effectivement réfléchir à l'impact concret qu'elle peut avoir ici pour les petits producteurs locaux, pour les petits producteurs du Sud et puis pour la planète en général. Je pense qu'on a tous besoin d'y penser au quotidien. C'est quand même les générations futures qui nous en tiendront rigueur.
C'est un peu consommer mieux, mais moins. D'une certaine façon, puis en plus, oui, sans compter que les habitudes alimentaires ont aussi beaucoup changé. Enfin, on ne consomme pas de la même façon que nos parents. Effectivement, moi, je suis carnivore aussi, j'adore la viande, mais avoir de la viande tous les jours à midi, ce n'est pas forcément une obligation. Mmh. Mais avoir de la bonne viande 2 jours par semaine, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé aussi de ce côté-là, quoi.
C'est une prise de conscience de dire on a un pouvoir en tant que consommateur. Il y a une formule qui dit on a un droit de vote quotidien qui est celui de notre caddie et notre sac de provision.
Exactement.
Donc c'est cette prise de conscience là qu'il faut. On essaie de le rappeler tous les mois, mais c'est sûr que c'est cette prise de conscience là qu'il faut avoir. Donc, Aujourd'hui, votre site, il fait quel genre de connexion
Alors, moi, j'ai toujours un... Il y a deux versions, en fait. C'est la version des manifestants et la version de la police. Donc, la police, en l'occurrence, je rigole un peu là-dessus, mais c'est vrai qu'on dit un peu tout n'importe quoi sur les statistiques. Il y a la version d'un outil qui s'appelle Google Analytics, tout simplement, qui contrôle.
C'est assez précis, normalement.
C'est la police. C'est 80 000 visiteurs uniques par mois. Et puis, la version de notre hébergeur et les stats automatiques qu'on a, c'est les manifestants. Là, c'est plutôt autour de 150 000. Donc voilà, ça doit osciller entre les deux. Mais en tout cas, c'est un trafic qui est important. C'est pas une start-up, les marchés citoyens. On n'a pas fait des bannières de pub dans tous les sens, mais simplement par le bouche à oreille, par des opérations de communication aussi qu'on a montées avec pas mal de partenaires. Je peux les citer en plus je pense que c'est des gens qui sont quand même pas mal, on en a parlé récemment, c'est le Crédit Coopératif, on a aussi des structures comme Botanique, on a des gens comme Altermondi qui proposent des boutiques de déco et de fringues équitables, issues de l'agriculture biologique. On a pas mal de partenaires qui nous accompagnent pour développer le projet et en même temps effectivement, c'est des gens qui croient à l'intérêt de promouvoir une autre économie.
Mais alors après, j'ai une question aussi. Enfin, quels sont les critères de choix en fait? Il y a aussi beaucoup de participatifs sur le marché citoyen. Un appel aux internautes.
Comment une boutique est référencée sur le site en fait.
Voilà. Enfin, est-ce qu'on peut assimiler ça à un label d'une certaine façon? À mon sens, pas tant que ça.
C'est un petit peu la question. En fait, bon, ça fait 5 ans qu'on existe et on a toujours dit qu'on n'était pas un label, mais on a défini une charte avec des engagements économiques, sociaux, environnementaux qui reposent justement sur des labels, sur les labels agriculture biologique, Max Havelaar, mais il y en a tout un tas d'autres dans tous les secteurs de consommation. Donc nous, on a une expertise aussi pour tous les référencer et ça nous permet d'évaluer la démarche de l'entreprise. Et pourquoi j'insiste peut-être sur ce terme de démarche? C'est que on se sert des labels, mais on analyse aussi comment fonctionne l'entreprise. Et aujourd'hui, notre charte, elle est en permanence en train d'évoluer. Et je vous donne un exemple. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est complètement d'actualité. C'est aujourd'hui, si j'achète à un producteur local en France, j'ai un impact en termes de transport qui est vraiment plus léger. Je sais que les normes sociales, en tout cas jusqu'à maintenant, sont quand même relativement respectables en France. Donc nous, on travaille au quotidien sur l'évolution de la charte et on est notamment sensible à cette forte demande qu'il y a aujourd'hui en France, qui est d'une certaine manière une sorte de « made in France ». Pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a une notion de développement économique. Je pense que les gens ont compris aujourd'hui, et ça a mis du temps, et parce que c'est aussi un petit peu compliqué, que quand ils consommaient un produit qui avait été produit à l'autre bout de la planète par des gens qui étaient en semi-esclavage, ça pouvait avoir un impact très concret sur l'emploi de leur emploi ou l'emploi de leur frère, beau-frère, pote d'à côté qui est licencié parce que la boîte a dû délocaliser une partie de sa production. Donc aujourd'hui, je pense que ce retour à une économie locale, on veut le valoriser à travers le marché citoyen. Donc c'est pour ça que la charte évolue. Et je pense que c'est quelque chose de très positif. Je fais un petit peu le parallèle avec l'agriculture vivrière qui est en train de se redévelopper au sud, mais qui est aussi en train de se redévelopper en France. On n'est plus forcément dans la production pour l'export, mais on est aussi dans la production pour vivre, tout simplement, au quotidien.
D'accord. Mais alors, je reviens sur les gens qui vont sur votre site. Vous avez dit entre 80 000 et 150 000. Est-ce que vous avez une vision de qui sont ces gens? Est-ce que c'est localisé en France? Est-ce qu'il y a plus de...
Alors, on a aussi.
C'est plus dans les villes, c'est plus urbain, c'est plus masculin.
Vous avez une très belle appli iPhone aussi.
Merci de le signaler. L'appli s'appelle LMC Phone. LMC Phone, vous la trouverez sur l'Apple Store.
D'accord.
Et effectivement, je crois qu'en tout cas, on a des très bons retours. Elle fonctionne bien.
Pourquoi lancer une appli iPhone d'ailleurs?
Parce que tout simplement.
On se prend quand même dans un système.
On se balade pas tous avec son ordinateur dans la rue. C'est un petit peu compliqué. C'est quand même utile.
C'était un peu sournois quand j'ai lancé le.
Pourquoi par rapport au smartphone, par rapport à leur impact. Voilà, effectivement. Alors. On est quand même très pragmatique. Et je vois qu'autour de cette table, tout le monde a son iPhone.
Donc, on est grillé.
Non, piégé.
Mais c'est intéressant parce que voilà,
pas Cyril.
Ouais.
Le marché citoyen, on est aussi dans la réalité et dans le pragmatisme et dans la difficulté aussi à consommer autrement. Nous, notre idée, c'est de faciliter les choses et en fonction des tempéraments des gens, pas en fonction des gens tels qu'on voudrait qu'ils soient, en fonction des gens tels qu'ils sont aujourd'hui pour effectivement leur donner des pistes et des outils. Mais pour revenir sur votre question par rapport au profil des visiteurs, nous, on voit, encore une fois, à travers des outils d'analyse d'Internet, du trafic Internet, que les gens viennent de toute la France. Nous, on référence aussi, il y a aujourd'hui 6000 points de vente sur toute la France qui sont référencés sur le site, en partenariat avec Colibri, hein, qui référence, lui, les producteurs bio et les AMAP. Donc on a vraiment un vaste réseau ensemble référencé. Et on voit que à travers les réactions des gens, qu'on a vraiment des militants, des acteurs de cette économie sociale et solidaire qui sont des utilisateurs du site Internet, qui sont parfois critiques ou parfois qui valident le positionnement du site. Et puis on a aussi des gens qui découvrent, qui veulent avoir des informations, qui n'y connaissent rien et qui souhaitent découvrir et faire un premier pas dans ce type de consommation. Oui, ça, c'est les analyses. On a des échanges très fréquents par email et puis à travers les messages aussi qu'on contrôle d'une certaine manière, qui sont envoyés aux commerçants. On voit les demandes d'informations, de devis, de prestations, qu'on a vraiment affaire à des novices, du novice intéressé jusqu'aux militants de la consommation responsable.
De la pédagogie, gens beaucoup plus engagés.
Ouais, faut dire à nos auditeurs que c'est un site, c'est un annuaire, mais il y a aussi du contenu sur ce site. Il y a des articles qu'est-ce que l'agriculture biologique, des choses comme ça, le label AB, comment ça marche, des choses.
Effectivement,
comme ça.
Tous les mois, on envoie une newsletter où on fait une sorte de revue de web de la consommation responsable en partenariat avec d'autres sites internet, Mes Courses pour la Planète, Développement Durable Journal. Et puis, on fait aussi un relais des campagnes de communication des ONG sur les questions de consommation, parfois de campagnes aussi institutionnelles, d'événements qui ont lieu au niveau national ou local dans le secteur de la consommation responsable. Et du coup, ça permet de se tenir informé et puis de se tenir également informé de l'actualité du site. Par exemple, le mois prochain, c'est la quinzaine du commerce équitable. Donc, on a un dossier spécial et on va le réactiver, l'enrichir dans le cadre de la quinzaine. Il y a les vacances qui arrivent. Il y a aussi les voyagistes responsables et écologiques solidaires qui sont référencés sur le site internet.
Il y a côté maraudier.
Exactement, on est dans la consommation. Ça, c'est très important. Hein. On ne s'en cache pas. On est dans la consommation. On ne référence pas tout ce qui se fait pour la transformation de la planète ou du monde. On référence ce qui permet, l'ensemble des commerçants et l'information qui est liée, qui permettent de consommer autrement près de chez soi.
Et comment vous gagnez de l'argent avec ce site ? Il y a un modèle économique
Alors, les commerçants sont référencés gratuitement. D'ailleurs, ils peuvent venir se référencer s'ils nous écoutent. En tout cas, si vous avez un épicier bio à côté de chez vous qu'on n'a pas repéré, il faut venir nous le
proposer. On peut dénoncer son épicier bio.
Dénoncer vos épiciers bio sur le marché citoyen, s'il vous plaît.
D'accord.
Ils sont référencés gratuitement et ensuite, on leur propose des espaces pour se valoriser sur le site Internet. On propose à des réseaux comme, effectivement, Altermundi, Crédit Coop ou autres de présenter leurs engagements dans l'économie sociale et solidaire ou dans le développement durable. Et c'est d'ailleurs une dimension qui est importante. C'est celle qui nous fait vivre, mais c'est celle qu'on défend aussi. Il y a une idée de promotion sur le marché citoyen des entreprises qui agissent autrement, qui fonctionnent autrement. On a en France, et je trouve ça bien aussi, une histoire de dénonciation et de révolte contre les gens qui vont dans le mauvais sens. Le marché citoyen, il a une logique de promouvoir ceux qui, à notre sens en tout cas, font avancer, et en tout cas, la planète et les droits sociaux.
Guillaume, on peut dénoncer son épicier même s'il vient de Tarnac ? Oh, c'était une blague.
Oui.
Guillaume, vous êtes référencé, votre boutique Puerto Cacao, vous êtes référencé sur le site. Vous avez l'impression que ça vous rapporte des visites concrètement ? Vous avez un retour sur investissement ? Vous savez ce que ça...
Moi, vous parlez un peu, malgré mon âge, à quelqu'un qui n'est pas du tout internetophile. D'accord. Et qui, du coup, enfin, ce n'est pas moi dans ma boîte qui m'occupe du trafic. D'accord, de mon site.
Il n'y a pas de problème.
Qui m'occupe de ça. Donc,
Joker. Non, mais vous avez un Joker chacun, vous l'avez encore utilisé, c'est très bien.
Voilà. Non, enfin, ça fait. Ça fait bien 2-3 ans que je ne veille plus du tout à ce qui se passe sur Internet.
Mais quel intérêt du coup
stratégique. Au début, on a travaillé, effectivement, au départ où nos projets se montaient, on a travaillé ensemble. J'avais fait, je crois, une fois ou deux, tu m'avais fait un public reportage, moi j'avais fait une fois une annonce, etc. Et en fait, à l'époque où je surveillais moi-même mes stats, je constatais qu'il y avait des gens qui venaient sur notre site et qui venaient dans les boutiques du marché citoyen. Maintenant, je ne sais pas dire aujourd'hui ce que ça m'apporte moi concrètement. Je sais malgré tout que c'est quand même, sur la plupart des événements qui se montent autour de l'économie sociale et solidaire et de la consommation responsable, un acteur qui devient peu ou prou incontournable de ces thématiques-là et qui est souvent associé.
On a parlé tout à l'heure de pédagogie. Est-ce que vous, justement, il y a un peu des enjeux de pédagogie par rapport à... Enfin, vous arrivez à discuter, justement
Ah ben moi, c'est la seule partie dont je me suis occupé sur mon site, c'est le contenu. Mais
puis même en direct, hein, dans
mais
magasin,
ouais, on essaie de faire en sorte, on essaie de faire en sorte ce que je vous ai expliqué en 15 ou 20 minutes sur les mécanismes de commerce équitable, de le simplifier et de le rendre accessible à tout le monde dans les boutiques. Savoir ce que c'est qu'un prix minimum garanti, savoir ce que c'est qu'une entreprise d'insertion, savoir ce que c'est qu'un ESAT, une personne qui fait travailler des travailleurs handicapés pour conditionner les chocolats dans les boîtes, savoir ce que c'est que... Enfin, expliquer aussi qui est Enercoop, parce que c'est notre fournisseur d'électricité. Donc oui, on essaye. Ouais.
Sophie, tu voulais dire un truc avant qu'on conclue l'émission ?
Alors oui, effectivement, merci Guillaume. Enfin, je pense que ça serait intéressant que des boutiques comme les vôtres puissent arriver à faire un petit peu de pédagogie, parce que ça me semble assez important. Le marché citoyen y contribue. L'émission va se terminer, comme d'habitude, elle a passé super vite. Moi, je voulais juste donner une info rapide. On n'a pas vraiment d'agenda aujourd'hui. Je vous invite juste à aller voir une expo qui se passe à Montparnasse. En fait, c'est dans le métro. C'est une exposition entre la ligne 4 et la ligne 12. C'est une exposition d'un photojournaliste qui s'appelle Franck Vogel, qu'on avait interviewé en octobre 2010, je crois, si je ne m'abuse, sur les Bicheneuil. C'est le premier peuple écologiste avant l'heure, au 15e ou 16e siècle. Et c'est plutôt une super
D'accord.
expo.
Ah, merci. Je rappelle que pour réécouter l'émission, donc on va terminer, et pour réécouter l'émission, elle est rediffusée demain, le vendredi, donc de 11h à midi. Qu'on peut réécouter également sur le site zoom-ecologie.net, sur lequel on mettra également les adresses des sites, les liens vers le site de Cyril, etc. Merci infiniment à nos invités. Merci à Cyril qui était à la technique aujourd'hui, qui nous a bien rendu service. Sophie, merci beaucoup. On se retrouve, l'émission a lieu toutes les semaines, donc vous retrouvez une autre équipe la semaine prochaine, jeudi prochain. Nous, l'équipe du 3e jeudi, on se retrouve le 19 mai.
Entre-temps, si vous avez des infos à nous communiquer ou...
Vous pouvez nous adresser un mail, exactement, zoomecolo3@gmail.com, c'est ce que tu voulais dire.
Exactement. Voilà.
Et pour terminer, on va écouter un titre de l'excellent album de Cyril Mokège qui sort dans quelques jours et qui est Des jours inouïs, la 5e chanson du CD. Merci, à bientôt.
Au revoir, merci.
Au revoir. Au revoir.
Carnaval en ces temps de partage absent, de spectacle absurde, d'isolement, isolement. Le monde dans le monde, mais du monde à l'écart, dit c'est par où qu'on se marre. Carburé à l'émotion liquide. liquide, liquide, consommer le vide qui nous embrase, dit, c'est pas...